qui s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis. Elle reste muette, la maman des poissons. Elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a...
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 10 avril 2024 et franchement c'est un très grand plaisir de vous retrouver en direct, 1h30 pour vous parler de livres et échanger avec des acteurs de la chaîne du livre, 1h30 jusqu'à 18h30, à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et aujourd'hui notre invité, Gennaro Toscano, co-commissaire de l'exposition L'Humaniste, Le Prince et l'Artiste, l'invention de la Renaissance sur le site Richelieu de la BNF qui se déroule jusqu'au 16 juin 2024, 5 rue Vivienne, à Paris. Est-ce que Frédéric, nous avons des annonces ou est-ce que je passe les miennes ? Alors, une annonce qui me paraît importante, c'est la fête du livre. Il y a beaucoup de festivals et de fêtes consacrées au livre ce week-end sur Paris. La fête du livre, le samedi 13 avril de 10h à 18h et le dimanche 14 avril de 11h à 16h. Des centaines, des milliers de livres neufs et d'occasion, de la BD, des romans, des essais, parfois rares, épuisés, introuvables, à des prix d'occasion. Et ce sont les éditions Noir et Rouge qui sont installées 8 impasse Crozatier dans le 12e arrondissement qui organisent cette fête du livre. Je vous invite vraiment à y aller, c'est un vrai plaisir. C'est le métro Faidherbe-Chaligny sur la ligne 8. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, eh bien, c'est le Salon du Livre. Bon, d'abord, parlons de l'institutionnel. L'institutionnel qui se trouve dans l'espace éphémère, dans le Grand Palais éphémère, qui est à l'école militaire. Ça commence le vendredi matin, c'est-à-dire bientôt, là, après-demain. Et puis, ça va jusqu'au dimanche. Là, vous trouverez quantité d'exposants, d'éditeurs, d'éditeurs. Alors, vous avez les grandes maisons, Gallimard, Le Seuil, etc. Puis, vous avez aussi des petits éditeurs dont nous avons l'habitude de parler dans notre émission. Enfin, troisième salon, eh bien c'est le salon de l'autre livre qui se trouve au Palais de la Femme, au métro Charonne. Et là, vous trouverez des petits éditeurs, de ces petits éditeurs qui souhaitent volontairement se mettre à part pour discuter, pour pouvoir échanger. Et là, vous avez des livres de très très belle tenue. Moi, j'aime beaucoup certaines maisons d'édition. On aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois lorsque nous nous retrouverons fin avril. Frédéric, est-ce que nous sommes au point ou pas ? Oui, c'est bon. Alors, en plus, n'oubliez pas, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, c'est toujours la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, mais aussi le blog Groupe Commune de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » qui se trouve sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Alors, on va commencer la première partie par alimenter le débat comme on le fait d'habitude. Alors Frédéric, est-ce que tu étais déjà né au moment de l'alunissage en 1969 ? Oui ou non ?
Non, mais d'abord, je vais commencer aussi par un petit rappel, c'est-à-dire le ciné de la Commune vous invite pour le film « Changer de vie ». Un artiste portugais qui a milité contre la répression de la dictature de Salazar au Portugais, donc pour fêter, disons, les 50 ans de la révolution des œillets. Vous êtes conviés à partir du, c'est-à-dire le soir du 17 avril, à partir de 20h, 145 rue Amelot, à Librairie Publico, métro Oberkampf ou Fille du Calvaire, et il y aura le co-réalisateur sur place pour pouvoir débattre du film. Voilà, donc oui, alors est-ce que j'étais né, en effet ? Eh bien, oui, mais voilà, attention.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
Voilà, pourquoi ce petit compte à rebours ? C'est pour vous faire une recension d'un très bon livre, Une histoire de la conquête spatiale. Alors, cette semaine, pour cette recension, je vous emmène carrément dans l'espace, comme vous avez pu l'entendre. Là, nous sommes déjà partis. Alors, ce livre vous offre une vision de ce qui a été, est et sera l'histoire de l'espace. Des débuts plutôt répugnants, car nombre de pays, dont la France, les USA, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, recrutèrent, et ce, à peine la Seconde Guerre mondiale terminée, des savants nazis, qui furent impliqués dans le programme des missiles V1 et V2, qui, je le rappelle, furent la cause de dizaines de milliers de décès. En France, ils furent accueillis à Vernon, dans l'Eure, on leur construisit même une petite ville. Werner von Braun, un de ces savants nazis, vous le direz, dans le livre, est récupéré par les USA et fut un des principaux artisans du programme Apollo. Il est honoré par le gouvernement des USA, en totale amnésie de son passé criminel. Avant la conquête de l'espace, il y a eu d'abord l'intérêt des militaires pour les fusées, pour transporter des charges nucléaires. L'astroculture et l'astrocapitalisme. Grâce à ces deux notions que j'ai découvertes, comment on a justifié les dépenses astronomiques des programmes spatiaux auprès des contribuables et comment aussi rentabiliser ces opérations? Les militaires ne sont pas en reste pour militariser l'espace, conquérir et installer l'espèce humaine sur la Lune ou Mars. Ça coince. Le livre vous explique pourquoi. Des projets gouvernementaux ou privés qui ne mènent sur rien, mais qui consomment beaucoup d'argent, qui nous assomment d'impôts et qui flouent des investisseuses et des investisseurs. Aller chercher des minerais sur d'autres planètes? Bon, car notre planète ne peut plus en fournir, comment n'y avais-je pas pensé? Pourtant, d'autres y pensent. Et le prestige national est aussi une raison de la course vers l'espace. Affirmer sa supériorité sur d'autres nations. Marcher sur la Lune ne fut qu'une démonstration de ceci. Et le colonialisme sur d'autres planètes, certains y pensent sérieusement. Elon Musk et SpaceX, une calamité idéologique rance, un désastre écologique et sociétal et astronomique. Les missions spatiales à but scientifique, de la poudre aux yeux? Les déchets spatiaux dont tout le monde se fiche et pourtant il faudrait bien s'en inquiéter. Ce livre traite de nombreux sujets et est accessible à toutes et tous sans connaissance scientifique, mais est bien sourcé. En lisant ce livre, j'ai eu des réponses à certaines de mes questions, dont une en particulier. À quoi cette frénésie spatiale peut-elle bien servir? J'ai eu ma réponse. Un livre à lire que je vous conseille et dont je vais vous rappeler... Et donc je vais vous donner les références parce que je ne les ai pas encore données. Une histoire de la conquête spatiale par Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin, édition La Fabrique. C'est un livre que vous pourrez vous procurer et à commander à la librairie Publico.
Alors, je mentionnais l'arrivée de l'homme sur la Lune en 1969. Un an auparavant, Stanley Kubrick sortait son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout le monde a en tête la mutation d'un objet lancé par un homme préhistorique en vaisseau spatial, un très beau moment cinématographique, un film à revoir. Écoutons aussi Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss, repris par Kubrick. J'espère que vous avez reconnu évidemment ce moment et puis j'espère que vous vous rappelez l'œil de l'ordinateur. Enfin bon, un film magnifique. Dans cette première partie, on ouvre le débat et je voudrais présenter un livre sur un phénomène qu'on a un peu oublié, l'hécatombe océanienne depuis la découverte de ces îles jusqu'au milieu du XXe siècle. Et oui, une hécatombe océanienne. Cette histoire pèse encore sur l'esprit de nos amis, comme je l'avais déjà souligné en présentant le livre collectif sous la direction de Pierre Singaravelu, « Colonisation, notre histoire », paru aux éditions du Seuil. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter donc « Hécatombe océanienne, histoire de la dépopulation du Pacifique » et ses conséquences du XVIe au XXe siècle, paru aux éditions Au Vent des Îles, une maison d'édition qui est basée justement dans l'océan Pacifique. Alors, le choc de la rencontre entre les conquérants européens conduits par Magellan, Cook, de Bougainvilliers, ce sera l'arbre, et les peuples océaniens ne fut pas que culturel et économique. Il se traduisit aussi par une hécatombe d'environ 3 millions d'habitants. Au départ, la population se réduisit à quelques 400 000 individus dans des îles quasiment désertifiées, comme Rapa Nui, vous savez, la célèbre île de Pâques. 10 000 habitants, en 1720, une petite centaine en 1880. Et ce n'est pas que de la responsabilité de la France, mais c'est tout un continent européen qui déverse du XVIe au début du XXe siècle maladies, turpitudes, méfaits, esclavage, destruction de grandes cultures sur ce gigantesque espace qu'est l'Océanie. Archéologue installé en Nouvelle-Calédonie, Christophe Sand s'appuie sur ses constats de concentration d'habitats et de lieux de culte pour s'interroger sur le nombre d'habitants dans ces îles. Il lit de nombreux témoignages d'envahisseurs, vous savez, les envahisseurs, les 3M, les militaires, les missionnaires, les marchands, et nous propose son livre dont je viens de rappeler le titre. Insistons sur cette maison d'édition. Ah oui, je cite leur présentation. Fondée en 1990 à Tahiti, en Polynésie française, Au Vent des Îles publie des auteurs du Grand Pacifique et des ouvrages relatifs à l'Océanie, région vaste et lointaine, méconnue quand elle n'est pas tout simplement fantasmée. Nos auteurs, je cite toujours la maison d'édition, nos auteurs, résolument ancrés sur leur île, mais façonnés par une histoire commune, imprègnent leurs écrits d'une ambition partagée, donner à lire l'Océanie autrement. Et le catalogue de cette maison d'édition, Au vent des îles, est d'une grande richesse, d'une grande diversité à découvrir. Revenons-en à cette hécatombe. Qui en a fait l'histoire ? Personne. Les témoins occidentaux se sont contentés de mettre en cause les mœurs des habitants, avec toujours le mépris du dominant. Bon, c'est un grand classique. Dans son livre, Christophe Sand nous invite à découvrir les différentes îles de la Malinésie, de la Micronésie, de la Polynésie, et tout comme les différentes sociétés. Je vous renvoie à un livre commenté il y a quelque temps dans la chronique des idées et des luttes du 2 mars 2024, ce livre « Colonisation, notre histoire » paru aux éditions du Seuil. Les deux se complètent et donc s'enrichissent. Les populations sont nombreuses au moment des découvertes. L'océan Pacifique, n'oublions pas, recouvre un tiers de la surface de la Terre. On remonte sur des milliers d'années pour couvrir des milliers de kilomètres de voies de commerce. La vie et les échanges n'ont pas commencé avec les explorateurs européens. Le livre se construit autour de 8 chapitres. L'un couvre la longue période d'exploration de l'Océanie par les pays européens et les conditions sanitaires sur les bateaux. Très intéressant. Un second chapitre aborde les grandes pandémies historiques et détaille les maladies introduites par les Européens. Tuberculose, MST, variole, scorbut, et les conséquences sur des habitants non immunisés, les conséquences sont effroyables. Certes, il existe des maladies endémiques comme la goutte, l'éléphantiasisme, mais ces nouvelles maladies introduites par les Européens sont radicales sur les peuples, sur ces peuples océaniens, tout comme sur les peuples d'Amérique. Et très tôt, les indigènes sont conscients des maladies introduites par les marins et les animaux importés. Et en 5 chapitres, Christophe Sand développe son analyse sur les différentes îles pour expliquer, chiffres et tableaux à l'appui, la chute des populations. Certaines îles sont touchées à 95% et cela se poursuivra jusqu'au milieu du XXe siècle. Le chapitre final est très intéressant aussi puisqu'il propose une synthèse chiffrée des données dans une approche régionale permettant de discuter l'impact de cet effondrement sur les organisations sociales, symboliques et politiques des populations insulaires. Expliquer cette hécatombe par les maladies serait insuffisant et presque une fuite pour évacuer la responsabilité des Européens colonisateurs. Des razzias, des destructions d'habitats, l'envoi en esclavage dans les mines du Pérou, en Australie, sur l'île de Guam, l'exploitation de la population de Nouvelle-Calédonie, la pollution des lieux de vie. Évidemment, la pensée colonialiste, le racisme contribuent largement à modifier les comportements. La christianisation détruit les croyances traditionnelles. Le traumatisme est intense encore aujourd'hui. Et c'est une source de défiance des Océaniens envers les Occidentaux. Et à l'occasion de la crise sanitaire du Covid, certaines populations se sont repliées sur leurs îles. En conclusion, je laisserai la parole à Christophe Sand. C'est en explicitant les éléments centraux du traumatisme historique transgénérationnel qui continue au XXIe siècle à affecter les sociétés insulaires que pourra être assumé la totalité de cette histoire complexe, en mettant en perspective les traumas de la période coloniale, les peuples du grand océan peuvent s'en libérer, en guérir et façonner un futur apaisé. Je rappelle les références du livre, Christophe Sand, Hécatombe océanienne, Histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences, 16e-20e siècle, aux éditions Au vent des îles, publié en 2024. À lire, évidemment. Frédéric, nous allons passer un petit peu de musique, justement, de musique d'Océanie. Troisième livre dans cette première partie pour engager le débat, c'est un moment historique. En effet, j'appellerais ça un mythe entre les flammes de la Moneda. Chaque 11 septembre, c'est toujours une émotion en souvenir d'un événement qui nous rappelle que la démocratie est bien fragile face à la violence de l'armée, la dictature et les puissances financières. En effet, ce jour-là, le 11 septembre 1973, un président de la République, élu, Salvador Allende, est renversé à l'occasion d'un coup d'État et le Chili tombe dans une sinistre nuit, une abominable dictature. Allende se suicide dans le palais présidentiel de la Moneda, soumis aux tirs et aux bombardements de l'armée de son pays, qui trahit les principes républicains avec la bénédiction des États-Unis sous la présidence de Richard Nixon. Nombre d'entre nous se souviennent de ces images, de la souffrance du peuple chilien. Les éditions L'Harmattan nous proposent une biographie écrite par Mario Amoros, justement de Salvador Allende. En couverture, Allende tient le drapeau chilien à la main, il est élu président, ce que n'acceptera pas évidemment la bourgeoisie de son pays. Sans doute il était socialiste, mais il est un mythe, un marqueur de la vie politique internationale. Il est mort les armes à la main, s'adressant à son peuple par la radio, et ses derniers mots sont des mots d'espoir alors qu'il va mourir. Trop souvent, leurs derniers moments héroïques obscurcissent l'action des femmes et des hommes pour plus de justice sociale. Eh bien, là, rappelons-nous que la Commune de Paris ne fut pas que des milliers de morts, la destruction de Paris par les troupes versaillaises. Nous devons garder d'Allende, comme de la Commune de Paris, son travail, son combat pour dépasser le capitalisme, construire un socialisme dans le respect du pluralisme. Songeons que ce coup d'État rompt avec un siècle et demi de développement démocratique au Chili, qu'il se situe dans la droite ligne des coups d'État en Amérique du Sud, soutenus par la pseudo-démocratie américaine. Salvador Allende naquit en juin 1908 dans une famille aisée, progressiste, et en tant que jeune homme, guidé par la conscience de classe d'un menuisier anarchiste, intéressant, d'origine italienne, Juan de Marchi, il commença à s'approcher des idées révolutionnaires. Mais il considère qu'il faut construire un parti socialiste et il y consacrera toutes ses forces. Il est élu député à 28 ans, il défend l'alliance du Parti socialiste et du Parti communiste et au fil des élections, les progrès se dessinent jusqu'à créer le grand mouvement politique, social et culturel autour de l'unité populaire. Il est élu président le 4 septembre 1970, la ferveur populaire explose, la réaction de droite et d'extrême droite se mobilise, le gouvernement récupère les grandes mines de cuivre, développe la réforme agraire, engage une politique sociale, soutient le secteur culturel. Durant ces 1000 jours, 1044 exactement, je cite l'auteur, le peuple chilien travailla et lutta avec les armes de la démocratie pour construire une nouvelle société plus juste, plus équitable, plus participative. Revivez cette période au fil de cette passionnante biographie. Et puis, les menaces se précisent, les trahisons se fomentent. Le 8 septembre, quelques jours donc avant le 11 septembre, un journaliste de la télévision française lui demande quelle serait sa place dans l'histoire du Chili et du monde. Allende répond avec un petit sourire, les historiens devront en juger. Oui, le travail d'Allende n'est pas achevé. Je rappelle les références du livre, Mario Amoros, Allende et la biographie, aux éditions L'Harmattan en 2023. Nous allons passer au deuxième temps de l'émission, c'est-à-dire la rencontre avec Gennaro Toscano. C'est un enregistrement du 8 avril, donc il y a deux jours. Gennaro Toscano nous avait reçus dans la grande Bibliothèque nationale de France, celle du site Richelieu, 5 rue Vivienne, et nous allons parler de l'exposition, je l'ai dit en début d'émission, l'humaniste, le prince et l'artiste, l'invention de la Renaissance. Frédéric, est-ce que nous pouvons passer l'entretien ? Monsieur Gennaro Toscano, merci de nous recevoir dans cette institution, qui est la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes conseiller scientifique à la BNF, vous êtes aussi professeur d'histoire et des collections du patrimoine à l'École des Chartes. Et là, présentement, vous êtes co-commissaire de l'exposition « L'humaniste, le prince et l'artiste, l'invention de la Renaissance » sur le site Richelieu de la BNF, exposition qui se déroule jusqu'au 16 juin 2024, au 5 de la rue Vivienne. Je conseille d'aller regarder sur Internet les horaires d'ouverture. J'ai vu encore ce matin des pauvres gens qui disaient « Oh, c'est dommage !» Alors, évidemment, chaque exposition a sa particularité. Mais est-ce que nous pouvons considérer que l'invention de la Renaissance est dans la continuité de l'exposition qui était intitulée « Imprimée, l'Europe de Gutenberg ». Nous avions invité Nathalie Coily, co-commissaire de cette exposition, pour la présenter. C'est un choix de la BNF ? Comment ça s'est organisé, cette succession ?
Disons que c'est plutôt l'invention de l'imprimerie qui est une conséquence de la Renaissance. C'est l'imprimerie est l'une des vraiment des révolutions de la Renaissance, mais la Renaissance est un mouvement culturel, artistique, qui commence bien avant l'invention de l'imprimerie. Et par ailleurs, notre expo, on a voulu vraiment souligner cette notion d'invention, alors que l'imprimerie, c'était pas l'invention de l'imprimerie, mais c'était l'Europe de Gutenberg, justement pour montrer que la Renaissance est un mouvement voulu, inventé et imposé par les humanistes à un moment précis. Mais au contraire, ces deux expositions montrent cet attachement de la bibliothèque à cette période, parce que notre bibliothèque est aussi liée, l'origine même de la Bibliothèque nationale de France, et liée à des collections des rois de France, remonte à la Renaissance et à l'invention de l'imprimerie. Donc effectivement, l'exposition Renaissance, l'invention de la Renaissance, ce n'est pas une exposition sur l'histoire de la bibliothèque, mais une réflexion sur les origines de la bibliothèque. Et là, on s'est vraiment aperçu que la Bibliothèque des Rois de France est un projet de bibliothèque humaniste transformé après en bibliothèque royale.
Alors, comment l'invention de la Renaissance, comment est-elle apparue, cette Renaissance ? D'abord, qu'est-ce que la Renaissance et quelles sont les valeurs de la Renaissance ?
Renaissance, c'est un mot qui a été inventé par les humanistes eux-mêmes, qui a été utilisé par les humanistes eux-mêmes pour définir cette période, justement, de Renaissance de l'Antiquité classique, des auteurs grec et latin, donc renaissance par rapport à une période de ténèbres, le Moyen-Âge, donc c'était cette période qui les rattachait directement à la tradition de l'Antiquité latine et grecque. Donc ce sont les humanistes qui, le premier Vasari au XVIe siècle, qui a utilisé le mot de Rinascita, donc renaissance, donc cette période qui nous avons voulu, un peu pour provocation aussi, non pas partir du XVe et du XVIe siècle, mais bien avant, nous avons voulu vraiment montrer cette large renaissance. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'en France, on a un peu les idées figées. Renaissance, c'est François Ier. Comme si avant François Ier, il y avait le désert, les ténèbres. Alors, nous avons vraiment voulu montrer que déjà, au XIVe siècle, nous reviendrons sur le sujet, j'imagine, un personnage comme Pétrarque est vraiment le précurseur. Et Pétrarque aussi, certes, il est né en Toscane, mais par sa carrière, c'est déjà quelqu'un qui a une carrière européenne, on pourrait dire déjà internationale.
La Renaissance, on est dans une logique européenne, c'est clair.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on peut déjà parler d'une république des lettres ante litteram, parce que dès le XIVe siècle, avec le transfert de la papauté en Avignon, Avignon va devenir la nouvelle Rome, et forcément, les relations entre les deux pays sont intensifiées énormément, échanges artistiques, culturels, songeons simplement à la présence d'artistes italiens à Avignon au XIVe siècle, notamment Simone Martini et Pétrarque. Pétrarque est arrivé, donc Pétrarque qui est le père fondateur de l'humanisme, et il a été reconnu en tant que tel par les humanistes du XVe siècle. Or, Pétrarque est né en 1304 et meurt en 1374. Donc vraiment, c'est un homme du XIVe siècle, mais par sa carrière, par ses choix culturels, par sa méthode, vraiment, il incarne toute la Renaissance, et nous l'avons choisi aussi comme fil conducteur de notre exposition.
Les valeurs de la Renaissance, et notamment la dignité de l'être humain, ça apparaît dans le catalogue, ça traîne.
Ça, c'est très important, parce que l'homme n'est plus écrasé par le poids de la religion, mais l'homme est libre, il est libre de ses choix, il peut affirmer sa dignité. On dit l'homme est au centre de l'univers, c'est-à-dire que c'est un homme sapiens, c'est un homme grâce à son intelligence, grâce à son érudition, grâce à l'étude qu'il peut faire des hommes du passé. Il s'est libéré. Bien sûr que ce n'est pas une révolution contre l'Église, mais c'est une pour montrer que l'homme peut vivre libre tout en étant chrétien et tout en respectant les règles de la religion. Même le même Pétrarque, c'est un clerc, c'est-à-dire il a les ordres mineurs, il fait c'est pas un moine, mais c'est un quelqu'un qui est parfaitement dans les rangs de l'Église, mais tout en affirmant sa liberté et son action. Pétrarque a des enfants.
L'exposition, vous la présentez dans la galerie Mansart et dans la galerie Pigault, là, du site Richelieu. Il y a une logique du parcours. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer,
C'est-à-dire, nous avons voulu commencer par le studiolo. Le studiolo, c'est l'espace privé du lettré et du prince. Donc c'est un lieu
fermé. Le lettré est replié sur lui-même.
Il n'est pas replié sur lui-même parce qu'il dialogue avec les auteurs de l'Antiquité, donc il établit un véritable dialogue vivant. Un manuscrit du passé n'est pas un point mort, c'est pas une pierre morte, mais c'est quelque chose de vivant. Donc l'humaniste et puis le prince, c'est un espace de méditation, c'est pas un espace de repliement sur soi-même. Et puis la méditation qui lui permet aussi de mieux comprendre, de mieux affronter la réalité. Donc nous commençons avec le studiolo, l'espace privé du prince, qui est un espace différent par rapport à la bibliothèque du prince, qui elle est ouverte aux humanistes et aux hommes de sa suite, parce que la bibliothèque devient le lieu où le prince peut exprimer sa magnificence. Donc nous commençons avec le studiolo et nous terminons justement avec l'évocation de grandes bibliothèques princières et royales, celle des Visconti de Pavie, celle des rois d'Aragon de Naples, et évidemment la bibliothèque des rois de France, de Louis XI à François Ier, c'est vraiment le moment où la bibliothèque royale s'affirme en tant que grande bibliothèque humaniste. Et la deuxième section, nous rentrons dans l'univers de Pétrarque. Comme je le disais auparavant, Pétrarque a vraiment une carrière européenne. Nous avons beaucoup insisté parce que le visiteur est accueilli par une carte de l'Europe de l'époque. Et c'est impressionnant parce qu'il suffit de voir les lieux, les villes que Pétrarque a visitées. Ça va de Naples à Paris jusqu'à Prague. Donc vraiment, dans ce triangle, il se rend à Liège, il se rend en Italie du Nord. Bien sûr, il commence ses études gamin à Carpentras. Après, il poursuit ses études à Montpellier, grand centre universitaire de l'époque. Et puis, il termine ses études de droit à Bologne, la plus importante et la plus ancienne université européenne. Donc déjà ça montre cette circulation des hommes. Et puis par ses liens avec les Visconti, il a eu des mentions, des missions diplomatiques à Paris ou à Prague. Il profite de ses voyages pour se rendre dans les bibliothèques des abbés à la recherche de manuscrits inconnus. Et donc c'est comme ça qu'il retrouve des textes de Cicéron et surtout des textes de Tite Livre, c'est sa grande passion. C'est Pétrarque, toute sa vie, il essaye de retrouver la plupart des fragments de l'histoire de Tite Livre, parce que Tite Livre, historien de la Rome républicaine, et la Rome républicaine constitue le modèle politique pour Pétrarque, tout en étant un clerc et tout en étant lié à Avignon. Par ailleurs, Pétrarque déteste Avignon parce qu'Avignon, pour lui, c'est la nouvelle Babylone, donc c'est une ville de perdition, et dès qu'il peut, il s'éloigne d'Avignon pour terminer après sa vie à côté de Padoue.
Alors justement, ces humanistes partent à la recherche de textes. Comment a-t-on retrouvé ces textes? Ils étaient en fait dans les abbayes, non?
C'est grâce aux moines et aux calligraphes du Moyen-Âge que nous avons aujourd'hui accès à la culture classique, parce qu'évidemment, tout au long du Moyen-Âge, on a copié, recopié. La différence, c'est que c'est pas qu'ils étaient perdus, ils étaient endormis dans les bibliothèques monastiques, et les hommes de la Renaissance ont eu cette conscience de retrouver, surtout de faire un travail éditorial, un travail aujourd'hui on dirait de philologie, c'est-à-dire d'essayer de restituer le texte le plus proche à la version d'origine. C'est ça le travail. L'humaniste en fait est un vrai professionnel du texte. Aujourd'hui on parle de philologue, de paléographe. L'humaniste est tout ça. C'est-à-dire, l'humaniste est capable de comprendre, de lire le transcrit. Et par exemple, bien sûr au Moyen-Âge on connaissait Aristote, mais on le connaissait à travers des traductions latines et d'après des textes arabes. Là, à la Renaissance, à partir surtout de la fin du XIVe siècle, on traduit Aristote directement du grec en latin, et donc du latin en italien, ou dans les langues vernaculaires, ou en français. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment cette volonté de redonner au texte sa version, celle qu'on croit est la plus proche de l'Antiquité. Donc l'humaniste est un professionnel, l'humaniste est une nouvelle profession, il se met soit au service du prince, il peut être précepteur des enfants, il peut être chancelier de la République dans le cas de Florence, ou il peut être philologue, mais il est capable de démontrer aussi la véridicité de prouver que certains documents sont des faux.
Et il est professionnel, il y a donc un réseau de professionnels qui se crée au niveau de l'Europe. On parlait tout à l'heure de République des lettres, elle se crée là, à ce moment-là.
Qu'elle se crée, c'est une tâche collective. L'Italie, en ce moment, vit l'une des périodes les plus fastes de son histoire. Je parle du XVe siècle. Parce que après la paix de Lodi en 1452, il y a une certaine paix et une certaine prospérité, et ces humanistes, ils passent d'une cour à l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ils sont un peu aussi, ils profitent de la situation, ils vont chez le prince qui leur permet de mieux les faire travailler, les mieux de les accueillir et les mieux payer.
Et les protéger.
N'oublions pas que si Léonard de Vinci arrive en France à la cour de François Ier, parce qu'il est très 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 bien payé et que le roi ne lui demande rien. C'est ça qui est intéressant. Donc, souvent on oublie, on parle tout le temps. Le génie fait oublier aussi les besoins matériels et de vie de ces personnages. Donc les humanistes passaient de cours en cours selon les salaires qu'ils pouvaient percevoir et surtout aussi s'ils pouvaient bien travailler au service de tel prince ou de tel monarque de l'Italie de l'époque.
Alors, nous sommes dans une émission qui s'appelle Au fil des pages et qui est donc consacrée aux livres et aux acteurs de la chaîne du livre. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a été particulièrement intéressé par cette exposition. Et vous insistez sur le culte de la beauté qui intègre l'art du livre et qui est en dialogue avec d'autres formes d'art. Dans le catalogue, ça apparaît nettement.
Oui, et surtout, le visiteur verra que le livre est protagoniste. Mais il est protagoniste parce que le livre est un instrument capital dans la diffusion des idées même et des idéaux de la Renaissance. Et le livre est protagoniste, le livre triomphe, le livre est central dans notre discours et pour une fois, les œuvres d'art accompagnent le livre et pas vice-versa.
Les livres sont quasiment des
livres,
œuvres d'art.
Et on a voulu montrer aussi que le livre est un véritable objet d'art. Le livre est contenu, donc il contient la science, il contient les textes, mais aussi c'est un objet d'art. C'est quelque chose d'extrêmement raffiné à partir non seulement du décor, où on fait appel au plus important un luminaire de l'époque, parce que le prince, il veut un produit unique et raffiné. Et deux, même les relures, nous exposons des relures magnifiques, parce que c'est l'habit du livre. Mmh. Le livre est présenté, bien sûr, dans les bibliothèques à plat, et parce qu'aussi la bibliothèque est un lieu de réception. La bibliothèque du prince est le lieu, comme je vous disais tout à l'heure, où s'exprime la magnificence du prince, mais c'est le lieu où le prince doit éblouir ses visiteurs par le côté précieux du livre. Même s'il ne lit pas le grec, il a besoin de montrer ce livre avec une relure extrêmement précieuse. Donc effectivement, on a beaucoup insisté sur l'apparat du livre et pour montrer que le décor du livre, on le retrouve dans les gravures, en sculpture, en peinture. Donc ce dialogue des arts est vraiment très important et là, on peut affirmer que c'est un peu une nouveauté dans le paysage, parce que effectivement, on a voulu montrer dans cette exposition, qui n'est pas exposition Beaux-Arts, c'est aussi le pari d'une exposition sous la civilisation de la Renaissance, où les arts dialoguent entre elles, et que des artistes, des enlumineurs peuvent être également, je cite uniquement peintres, je cite uniquement l'exemple exceptionnel, Marco Zoppo est un élève de Squarcione à Padoue, l'un des ateliers les plus importants de l'époque, où s'est formé également Mantegna, le génie de la peinture et de la gravure italienne de la Renaissance. Marco Zoppo, nous avons présenté ici, dans un dialogue émouvant, un livre manuscrit enluminé par lui-même et une Vierge à l'enfant peinte par lui et signée par lui.
On a vraiment envie d'aller voir cette exposition ou d'aller la revoir. Alors, vous avez fait aussi le choix de la couverture du catalogue avec des couleurs intenses. Il y a toute une symbolique là. Que représente cette couverture? Il y a du bleu.
Symbolique des couleurs, non. Mais sûrement le choix du condottiere, parce qu'il y a plusieurs. D'abord, c'est un manuscrit donc qui montre Attendolo Sforza, qui est l'un des Sforza, seigneur de Milan, duc de Milan, un condottiere, donc qui est chef d'armée, mais surtout l'iconographie nous intéresse parce qu'il reprend l'iconographie des monuments équestres antiques, romains, notamment Marc Aurèle, mais également de la Renaissance, Donatello, Verrocchio, donc il y a toute une... Donc le choix iconographique est exceptionnel et aussi parce que ce monument équestre est l'un des rares documents à nous donner une idée du projet que Léonard de Vinci avait préparé pour Francesco Sforza, un grand monument équestre qui n'a jamais été réalisé parce que c'est le début des guerres d'Italie. Ouais. Et encore une fois, parce que ce manuscrit a été saisi par Louis XII à Pavie, donc nous sommes encore deuxième guerre d'Italie, donc c'est un manuscrit qui arrive dans les collections des rois de France dès 1500 à la bibliothèque de Blois. Donc il y a tout. Il y a l'histoire des collections, l'iconographie, donc effectivement, ce texte exprime parfaitement le contenu de notre exposition Échange, dialogue, France-Italie au 15e et au début du 16e siècle.
Et quel est le rôle des éditeurs libraires? Vous en parlez aussi dans le catalogue.
L'édition aura un rôle important, pas tout de suite, parce que le livre manuscrit ne va pas céder tout de suite la place, parce que le prince veut le manuscrit, parce que le manuscrit est un produit unique et donc évidemment de luxe. Mais c'est très important parce qu'évidemment les éditions vont permettre une plus large circulation des textes, et puis ils vont aussi, et ça sera le cas de François Ier, à partir des manuscrits, et ça c'est vraiment la fin de notre exposition, nous terminons sur cette volonté d'éditer des textes, des ouvrages à partir des manuscrits de la bibliothèque, dont toute la collection ex-bibliothèque à Reggio de la bibliothèque royale de François Ier.
On a aussi le rôle de la traduction. Pour rendre les textes plus accessibles, on organise tout un travail de traduction. Est-ce qu'il y a des ateliers de traducteurs? Comment ça se passe?
Il y a des ateliers de production du livre, mais il y a des traducteurs. C'est ça qui est important, effectivement. La partie centrale de notre exposition, qui est vraiment la plus riche et la plus dense du point de vue de nombre de pièces exposées, qui s'appelle « De l'étude de l'Antiquité au goût de l'antique », nous montrons effectivement des exemplaires, par exemple un traité d'anatomie, nous montrons le texte grec, la traduction latine et l'impression, l'édition parisienne de ce texte. Mais aussi, nous montrons les traductions en français des œuvres grecques ou latines pour François Ier. Donc évidemment, tout ce travail éditorial pour permettre à qui n'avait pas accès aux langues anciennes, à ces textes, à ces monuments de l'Antiquité. Donc effectivement, le travail de traduction est très très important. Mais n'oublions pas que dès la fin du XIVe siècle, en 1397, la première chaire de grec est créée à l'université de Florence. Donc à partir de ce moment, on enseigne le grec, mais surtout on peut traduire directement du grec en latin, en italien et bien sûr en français.
Et moins connu que les livres, l'apparition du portrait humaniste avec le roi français Jean le Bon. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a d'original, d'intéressant dans cette apparition du portrait humaniste.
Le portrait humaniste, effectivement, vous avez bien fait de rappeler Jean le Bon, qui n'est pas dans notre exposition, bien sûr, c'est un portrait du Moyen-Âge, mais il s'inspire à un prototype qui avait été mis en place dans la Toscane de Giotto et Simone Martini. Simone Martini, après, il arrive à Avignon. C'est sûrement un peintre français qui a vu le portrait de profil. Le profil parce qu'il rattache directement aux monnaies antiques où l'empereur est représenté de profil. Donc à partir d'une petite monnaie, on développe cet art du portrait de profil qui après va triompher à la Renaissance et va s'imposer tout au long du 15e siècle, parce qu'il rattache directement le personnage représenté à cette iconographie impériale antique. Donc les hommes illustres du passé deviennent des modèles pour les hommes du présent à travers tous les traités, à partir du traité des hommes illustres de Pétrarque, pour arriver jusqu'à Paul Job, aussi ces traités des hommes illustres, mais du point de vue artistique, c'est le modèle d'iconographie qui va s'imposer, qui passe de la monnaie antique à la médaille, parce que la médaille également a une fortune énorme à la Renaissance. La médaille permet de représenter le prince ou l'humaniste de profil, accompagné de son nom et accompagné de ses emblèmes et ses armoiries. Donc c'est un instrument de propagande exceptionnel, et la médaille va imposer également en peinture ce portrait de profil. Mais dès les années 1480, ce portrait disparaît et va céder la place au portrait de trois quarts qui va triompher jusqu'à nos jours.
D'accord. Les princes en France, alors en Italie, on n'en a pas mentionné un certain nombre, en France, à Blois, à Amboise, on installe des bibliothèques, ce sont les prémices de la BNF.
Tout à fait.
François Ier à Fontainebleau.
Bien avant François Ier, comme je disais tout à l'heure, à partir de Louis XI, la bibliothèque, les collections de livres se transmettent de père en fils en tant que propriété privée, mais la bibliothèque devient un bien de la couronne. Donc, mais surtout, c'est avec les guerres d'Italie, Charles VIII découvre l'Italie de la Renaissance et il s'empare de la bibliothèque des rois aragonais de Naples qui fait transférer au château d'Amboise. Louis XII, deuxième guerre d'Italie, s'empare de la bibliothèque des Visconti au château de Pavie et donc d'un nombre considérable de manuscrits de Pétrarque. Il les installe à Blois. Le mariage entre Anne de Bretagne et Louis XII fait que les biens de Charles VIII passe à Louis XII, donc d'Amboise, la bibliothèque est transférée à Blois. Bref, lorsque le jeune François Ier accède au pouvoir, il trouve à Blois une des plus importantes et riches collections de livres en Europe. Livres humanistes, deux bibliothèques humanistes, Visconti, Aragon, plus l'héritage des rois de France. Donc effectivement, il a un départ exceptionnel et puis, à partir de François Ier, la bibliothèque s'accroît sans cesse, le dépôt légal, etc. Elle va devenir, sous le règne de François Ier, avec la Bibliothèque Vaticane, la plus grande bibliothèque de l'Europe de l'époque. Et nous en sommes les héritiers, parce que nous avons une continuité unique dans l'histoire patrimoniale française, c'est-à-dire tous les manuscrits, il n'y a pas eu de perte, tous les manuscrits et les livres imprimés de la bibliothèque de François Ier sont conservés dans nos collections.
Alors, pour cette exposition, il y a des visites guidées, il y a des conférences que l'on peut retrouver sur le site de
la BNF. Bien sûr, il y a des visites organisées, donc il y a un service des publics de la Bibliothèque nationale, on peut réserver les visites sur visite@bnf.fr, et au mois de mai, entre autres, nous organisons une série de conférences, mais tout ça, on peut le retrouver facilement sur les pages web de la bibliothèque. Nous organisons un cycle de conférences sur les bibliothèques à la Renaissance, justement, pour accompagner ce que j'ai raconté sur les bibliothèques des Visconti, Aragon, François Ier. On aura une série de conférences ici même à Richelieu, dans la salle des conférences, gratuite et ouverte au public, à tout public. Donc, justement, autour de ce thème de la bibliothèque à la Renaissance.
Donc, deux mois encore assez intenses, là, puisque elle va aller jusqu'au 16 juin, cette exposition. Et après, vous avez d'autres projets, vous, Gennaro Toscani, plein, j'imagine.
Sans doute, je pense qu'on
va... On ne parle pas tout de suite.
Continuer. Non, je ne parle pas de... Mais sûrement, il y aura des projets de... Il y aura d'autres... publication scientifique, parce qu'effectivement, cette exposition est le résultat d'un long travail de réflexion. On ne l'a pas inventé du jour au lendemain, l'invention de la Renaissance. Donc, effectivement, derrière, il y a des années de travail, de recherche humble et d'équipe, surtout. Ce n'est pas une recherche solitaire, c'est ça qui est important. Donc, bien sûr, d'autres projets vont venir à partir. L'expérience de cette expo va nous pousser dans d'autres chemins et d'autres sujets liés à cette thématique de l'invention de la Renaissance.
Eh bien, Gennaro Toscano, merci de nous avoir reçus.
J'espère que cet entretien d'une demi-heure avec vraiment un feu d'artifice de culture, de plaisir sur l'Italie, sur la France, mais sur l'Europe, oui, cette République des lettres, elle est absolument extraordinaire. Allez voir cette exposition, vous ne serez pas déçus. Le catalogue est de toute beauté. Pour rester dans l'ambiance de la Renaissance, je vous propose une chanson française de la Renaissance d'un dénommé Delafont. La chanson s'appelle « À ce matin ».
«
Troisième temps de l'émission, on pourrait l'appeler Varia, c'est en quelque sorte une forme de plaisir de découvrir, comme chez les bouquinistes, en furetant dans leur caisse, que va-t-on trouver d'intéressant ? Eh bien, les romans de la vie, et Agnès va nous présenter un livre consacré à l'art, bien sûr, qui connaît un réel succès mérité, Les yeux de Mona. Alors, Agnès, oui, Les yeux de Mona.
Les yeux de Mona est un livre écrit par Thomas Fleischer aux éditions Albin Michel. Mais qui est donc Thomas Fleischer ? En fait, Thomas Fleischer est un historien de l'art, mais aussi un professeur de l'École Polytechnique, écrivain et directeur d'une fondation, Hertung Bergmann, au sein de laquelle il s'emploie à mettre en valeur des milliers d'œuvres d'art.
Alors, qu'en est-il du roman ?
C'est l'histoire d'un grand-père, d'Adé, un ancien reporter, une personne qui ne jure que parce qu'il est le plus beau, l'art, dont il est bien instruit, qui décide de conduire sa petite-fille de 10 ans, souffrant d'un risque de cécité, chaque mercredi, après l'école, dans des musées pour l'initier à une œuvre d'art, avant qu'elle ne perde peut-être la vue. Ils visiteront ainsi le Louvre, le musée d'Orsay et Beaubourg. Ensemble, ils apprendront à regarder un tableau, à s'interroger et à s'émouvoir devant 52 toiles ou sculptures et à s'imprégner des messages qu'ils transportent. Le succès de ce roman est connu, tant il est palpable et porteur pour tout un chacun, d'initiation à l'art certes, mais aussi à l'histoire, et plus encore à un parcours symbolique et initiatique. Les copies des tableaux évoqués sont imprimées sur la jaquette de couverture, mais leur narration est si précise et si bien écrite que pour beaucoup de personnes un peu initiées, cet ajout semble inutile dans la description et reconnaissable. Il est aussi appuyé par un relevé historique et culturel, humaniste, comme un élément d'actualité vivant, anecdotique et d'une grande puissance, jusqu'à une interprétation toute symbolique de chaque œuvre, porteuse d'équilibre et d'épanouissement. C'est bien de la valeur de l'humain dans l'art qu'effectivement Thomas Fleischer nous parle, et je vous propose d'en présenter deux exemples.
Alors tout d'abord Mona Lisa.
Oui, tout à fait, peinte par Léonard de Vinci. Qui ne connaît pas cet illustre tableau ? C'est un tableau qui avait été commandé par Francesco Giocondo, un riche marchand d'étoffes, en 1503. Mais Léonard de Vinci, pressé par une invitation en France, présentera d'abord le tableau en fait à François Ier. Cette œuvre ne fut réellement estimée et ne prit de la valeur que tardivement, puis fut volée, renvoyée en Italie, et on en fit des commentaires douteux que tout le monde connaît. Mais l'attention que porta cette petite fille Mona du même prénom à ce tableau troubla jusqu'au gardien du musée, tant son attention était touchante. Mona chercha longuement à comprendre ce paysage sombre et sans vie, devant ce portrait si souriant. Son grand-père lui expliqua alors ce que Alain, le philosophe, écrivait au sujet du bonheur. Que ceux qui s'efforcent de sourire provoquaient une réaction en chaîne, et que selon lui, c'est un devoir envers les autres que d'être heureux. De la même manière, Léonard de Vinci pensait que la peinture avait un effet de miroir sur les autres. Et qu'ainsi, le sourire de Mona Lisa portait le sourire de l'humanité. Quand on connaît les queues de touristes que ce tableau génère, je veux bien le croire.
Un autre tableau, l'enterrement à Ornans ?
Oui, c'est une immense toile qui se trouve au musée d'Orsay.
C'est Courbet, hein ?
Tout à fait, Gustave Courbet. La petite Mona semblait inquiète devant ce tableau. Elle était déroutée par l'ensemble officiellement terrible et habitée pourtant par des personnes distraites, d'autres qui avaient l'air d'avoir trop bu et certains qui lui faisaient presque face. Le grand-père lui indiqua que Gustave Courbet avait peint plusieurs personnes de sa famille, dont son père, sa mère et ses deux petites sœurs. Son atelier était si petit qu'il avait fait figurer les personnes les unes après les autres. Enfin, ce tableau avait beaucoup choqué l'opinion de l'époque. Il était impensable de peindre ce type de manifestation, le drame d'un deuil. D'autant que la célébration semble dépourvue de lumière et que tant de détails égarent sur le sérieux porté à l'événement, tant en termes religieux que la posture et l'habillement de certaines des personnes. Il lui rappela que ce tableau a été présenté juste après les événements de 1848 et que par opposition à Louis-Napoléon Bonaparte, Gustave Courbet souhaitait qu'il témoigne de la lutte encore vive de la province jusqu'à faire figurer dans son tableau des personnes en habit de vétérans de 1793, c'est-à-dire de la Révolution française. C'est, je cite Daddé, un véritable manifeste qui milite pour que quiconque, misérable ou puissant, ait le droit d'être représenté par ses élus en démocratie. Crie fort et marche droit, voilà l'image porteuse de ce tableau. Au-delà de la colère de l'anarchiste Gustave Courbet, ce tableau sera aussi l'ouverture d'un nouveau courant artistique qui s'appelle le réalisme. Ce Daddé est une de ces belles personnes qui, à l'instar d'Antoine de Saint-Exupéry, nous appelle à nous émerveiller de la puissance de la vie. Bref, j'envie bien les élèves de Thomas Schlesser de l'entendre encore et encore, et je vous invite à lire son livre. Donc, Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser, aux éditions Albin Michel, paru en 2024.
En fait, on peut retrouver, enfin, il y a une histoire, il y a un roman, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une analyse presque historique et artistique de chacune des œuvres qui sont présentées dans ce livre. C'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui est intéressant. Et que derrière tout cela, après, il y a une analyse pratiquement philosophique d'interprétation de tout ça.
Mmh. D'accord, donc un livre intéressant, un livre original, puisque la jaquette fait partie du livre. Hein. D'habitude, oui. La jaquette, on la met un peu de côté, mais là, non, on va l'utiliser puisqu'elle reproduit les œuvres.
Tout à fait, c'est une page double qu'on ouvre et tous les 52 œuvres sont inscrites, sont photographiées sur cette jaquette et on peut se reporter dessus. C'est vraiment très très bien fait. C'est une excellente initiative et c'est un petit bonheur de lire ce livre et de le garder près de soi, de l'ouvrir quand on en a besoin.
Merci Agnès. Donc je crois que la prochaine fois, c'est le 24 avril, qu'est-ce que tu vas nous présenter le 24
Théodore
avril
Rousseau, l'exposition de Théodore Rousseau.
Ah oui, l'exposition consacrée à Théodore Rousseau, mm-hmm, avec le catalogue, qui est un très beau catalogue.
Absolument, oui. Hein.
L'expo est au Petit
Palais.
Palais, hein, à Paris. Alors, en attendant Dominique, je voudrais vous dire deux mots du dernier numéro, le numéro d'avril du Monde Libertaire. Bon, il est consacré au nucléaire et son monde. Bon, il est contre le nucléaire et son monde. Je voudrais relever particulièrement, alors je ne vais pas commenter le dossier sur le nucléaire, il est très riche, il est très dense. Je voudrais insister sur un article d'un de nos amis, notre ami Ramon du groupe Salvador Segui, sur Salvador Puigantich. On n'oublie pas, et nous ici dans l'émission Au fil des pages, on n'oublie pas que on avait commenté un livre qui recueillait la biographie de Puigantich et qui reprenait aussi un certain nombre de ses déclarations, de ses réflexions. Un autre livre intéressant aussi sur Allemagne, alors la dénazification post-histoire du Troisième Reich, c'est un livre d'Emmanuel Droit, paru au PUF, et c'est notre ami Sylvain Boulouk, que nous avons reçu dans une émission il n'y a pas très longtemps, qui explique, qui fait une petite synthèse de cette Allemagne au lendemain de la guerre, qui doit encore vivre avec son passé et la difficulté d'admettre que, oui, on a été un certain nombre à être nazis. Un autre texte d'Hugues, du groupe Commune de Paris, c'est un commentaire d'un livre « Enseignant les nouveaux prolétaires » aux éditions ESF. C'est le titre veut tout dire, c'est « Professeurs de toutes les écoles, unissez-vous ». Et à cet effet, je vous rappelle que le groupe Commune de Paris va organiser à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire le 27 avril, va organiser un colloque. Vous pourrez retrouver sur le site du groupe Commune de Paris les coordonnées précises, c'est rue Étienne Marcel à Montreuil. Et là, on aura l'occasion de présenter, alors je cherche le titre exact pour ne pas me tromper, Éducation autogestionnaire, coopérative et libertaire, divergence et convergence. Présentation de films, présentation d'expériences, analyse, bref, un moment que nous espérons tous très intéressant. N'oubliez pas d'aller sur notre site, notre blog du groupe Commune de Paris, vous retrouverez tous les éléments. Et nous allons passer à Dominique. Allô, Dominique.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Dominique. Alors, nous avons un livre, là, assez original, assez intéressant, un peu bizarre.
Oui, oui, oui.
Client mystère.
Oui, de Mathieu Lauvergeat.
Alors,
publié chez Gallimard, collection Scribe. Alors, Lauvergeat, c'est un auteur...
Oui, qui est-ce?
Né en 1987 à Bordeaux, après un petit crochet en droit et dans les sciences politiques, il s'engage dans le métier d'éditeur. Et il publie également de la non-fiction et des livres illustrés pour diverses maisons et revues. Donc cette fois-ci, Client mystère, c'est un mix entre plusieurs types de romans. On pourrait dire que c'est un roman social, un roman d'aventure et un roman humoristique. Bon, dans tous les cas, c'est une critique féroce des nouveaux métiers ubérisés, des méthodes de contrôle du travail.
Ça commence comment ?
Alors, ça commence fort, puisque ça commence un dimanche soir pluvieux à Lille.
Ouais, bah ça, c'est classique.
oui, il drache, comme on dit là-bas. Alors, il y a un jeune homme qui est le narrateur qui pédale à toute berzingue sur les pavés humides pour livrer des repas chauds. Il ne voit pas une voiture qui arrive sur le côté, il la percute violemment. Donc, il en sort avec un bras cassé, son vélo foutu, un téléphone détruit et une pizza 4 fromages explosée au sol. Alors, c'est paraît-il le quotidien des livreurs payés à la tâche, en permanence sur le qui-vive, l'obsession de livrer chaud, suspendu au bip de l'application, qui les envoie livrer une commande à l'autre bout de la ville, et obsédés par les notes que vont leur mettre des clients. J'avoue que après je ne regarde plus les livreurs de pizza de la même façon.
Ah oui.
Ouais. Alors après cet accident, l'algorithme de l'application ne veut plus de lui. Il est suspendu, convalescent, indisponible. Donc il se retrouve sans ressources. Il essaye d'autres métiers, notamment cobaye pour son épiderme, pour des tests de produits pharmaceutiques. Donc ça ne lui plaît pas et il devient client mystère.
Ah, qu'est-ce qu'un client mystère ?
Alors, un client mystère, c'est une personne mandatée par les grandes entreprises pour jouer aux clients, mais en fait aux faux clients, afin d'évaluer les performances des employés à leur insu. Alors, c'est un homme ou une femme invisible qui va vérifier la qualité du service, évaluer l'amabilité des employés, la propreté de leur tenue, leur résistance à la mauvaise foi du client, puisqu'il leur pose exprès des questions stupides. Il délivre des satisfaisants conformes pour qualifier l'accueil, la propreté, l'ambiance. Et il doit mettre en lumière les insuffisances et les comportements fautifs des salariés. Il doit rester anonyme et à chaque mission se glisser dans la peau d'un nouveau personnage. Alors, il est son propre patron. Ils sont payés, bien sûr, en auto-entrepreneur. Et notre héros, qui était noté quand il était livreur de pizza, va se mettre à noter les autres.
Alors, comment va-t-il exercer ?
Ça, c'est assez amusant.
Ça, oui, ça va être original, ça. Mais oui, où va-t-il exercer ?
Alors, il est recruté dans un cabinet dirigé par une terrible Anne-Sophie. Ses cibles sont déterminées par des applications informatiques qui fixent le lieu, l'heure, la checklist des points à noter et le scénario qui sert de guide à cette tragicomédie. Alors c'est ainsi qu'il va, il va dans une boulangerie, il va contrôler la SNCF, les contrôleurs justement, il va dans des center park, il va chez des barbiers, des cafétérias, des centres de soins, des bijouteries, c'est assez varié, hein, des stations-service. Donc le côté varié lui plaît assez. Hein.
Et alors il y a des conséquences social terrible quand même.
Oui, parce que alors à un moment donné, le narrateur dit qu'il a un pistolet chargé sur les employés, qu'il ne se doute de rien. Eh ben, ça peut se finir par la validation ou la fin d'une période d'essai d'un employé, des avertissements, des licenciements, avec les drames qui peuvent aller jusqu'au suicide. Donc le héros, il y a un passage amusant où il va s'affronter physiquement avec des femmes de ménage qui découvrent qui il est, parce que parfois les questions sont tellement lourdes que les employés se doutent de quelque chose.
Alors ça, c'est pas très drôle, ça, qu'il va affronter des femmes de ménage, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, bah parce que les femmes de ménage vont le traiter de tous les noms en découvrant que c'est l'employeur qui l'envoie, alors qu'elles font très très bien leur travail. Et donc, elles lui mettent un balai dans les mains, elles lui disent de faire le même boulot. Enfin,
d'accord.
Oui, c'est ça.
D'accord, elle le ridiculise, quoi.
Oui, elle le secoue un petit peu moralement, on va dire. Bon, en tout cas, bon, il décrit avec justesse hein, tout ce métier, le fait de pousser des employés dans leur retranchement pour évaluer leur capacité à gérer leur stress, l'imprévu, l'urgence et la tension. Alors, le narrateur met en valeur aussi l'ambivalence hein, de ce métier, parce qu'ils sont bien payés, ils sont indépendants, ils voyagent, il est le seul maître de ses notations. Mais bon, la contrepartie, c'est qu'il n'a plus aucune interaction sociale en dehors de son travail. Il est happé par son travail.
Alors, il y a un style qui est assez dynamique, je crois, non ?
Ah oui, c'est assez virevoltant, réaliste, il y a des scènes très visuelles. À un moment, j'avais la gueule en tempête atlantique, un rythme soutenu pour une satire. Il utilise un vocabulaire, alors le vocabulaire du management contemporain, hein, l'innovation disruptive, le cas-ordre. J'étais venu comme j'étais. Bon, il se moque aussi il reprend des pubs hein, de McDonald's, il se moque des PowerPoint. Donc on rit, mais bien sûr on rit jaune. Hein. Et à noter la couverture parfaitement bien choisie pour symboliser les tentacules d'une pieuvre. Hein. Donc ça symbolise un certain système où la note est devenue un outil de management. Alors pour conclure, ces clients mystères existent. Nous le sommes tous plus ou moins. Quand on te demande après un repas au restaurant ou bien une nuit d'hôtel de noter. Donc, nous sommes aussi plus ou moins. Donc,
du coup,
je n'ai plus envie de noter après ce livre.
Ou après le passage du réparateur de la chaudière, par exemple.
Oui,
c'est pareil.
Oui, voilà.
Bon, bah, c'est bien ça. C'est un livre qui contient une dimension sociale et qui traite, on parle souvent de l'ubérisation de la société. Et bien voilà.
Un
bon exemple. Le prochain livre...
C'est la sortie d'un livre d'Alexandra Davinel, Souvenir d'une Parisienne au Tibet, qui était sorti en 1927, mais qui ressort avec des commentaires dans la collection Terre humaine.
Oui, tout à fait. C'est un livre qu'on a vu passer, là. Enfin, moi je l'ai vu passer, donc tu nous le présentes le 24 avril.
Oui,
hein, c'est ça. Très bien. Merci. Eh bien, Dominique, bonsoir.
Et bonne lecture.
Merci. Marie, est-ce qu'on est prêt là? On peut y aller?
Oui.
Bon, alors Marie, on a beaucoup parlé de Manouchian ou Manoukian en raison de son entrée au Panthéon dans la presse nationale et macronienne à souhait. Et donc nous, au fil des pages, on n'en a pas parlé à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, son souvenir est déjà, d'ailleurs, faut le souligner, balayé par la médiocrité du pouvoir et au pouvoir. Oui. Mais nous parlerons de cette excellente bande dessinée ou roman graphique qui lui est consacrée. On y retrouve l'ami de Nynx, mais aussi un copieux travail de l'historien Denis Péchanski.
Tout à fait, oui.
À toi.
Oui. Alors, Misak Manoukian, sa mort l'a rendu célèbre, hein, bien sûr, mais le chemin de la mémoire a été semé d'embûches. Donc, le 21 février 2024, donc 80 ans jour pour jour après son exécution au Mont Valérien, Misak Manoukian rentre au Panthéon, accompagné de son épouse Mélinée. Et la bande dessinée dont, effectivement, je vous parle aujourd'hui, intitulée Misak Manoukian, une vie héroïque, donc qui est parue aux éditions Les Arènes en collaboration avec le ministère des Armées en janvier 2024, retrace en fait toute sa vie, hein, immensément riche. Misak Manoukian, désigné puis traité comme un criminel et même comme un terroriste, hein, d'ailleurs par la propagande nazie et collaborationniste, son visage ainsi que celui de ses 22 autres compagnons d'armes a été placardé sur la fameuse affiche rouge. Ses actes héroïques qui l'ont amené à son tragique destin de fusillé ont pourtant démontré un courage et une bravoure propres à tout acte de résistance dans cette France meurtrie par les ravages de la guerre et de l'occupation allemande. Alors, dans cette bande dessinée, hein, conçue comme un récit biographique de la vie de Misak Manoukian, donc, on voit bien sûr, en fait, il a été témoin, hein, de ce fameux génocide arménien, hein, qu'il a dû fuir son pays pour éviter une mort certaine. Et lorsqu'il est arrivé à Paris, hein, au début des années 1920, donc il a eu un parcours quand même, assez compliqué, hein, le parcours de tous ces apatrides, hein, il a travaillé d'ailleurs à Javel, hein, dans les usines Citroën, et puis il n'y est pas resté longtemps parce que bien sûr la crise et puis la xénophobie oblige, hein, au début des années 1930, bien sûr. Donc il a souvent été contraint de devoir faire des petits boulots pour survivre, hein, tout simplement. Mais lui, il était féru de littérature. Il a d'ailleurs débarqué à Paris dans l'espoir de devenir poète. Et puis il a contribué à de nombreuses traductions de poètes français en arménien. Ça lui était très propre, hein. Il avait vraiment cette envie, hein, de montrer en fait au monde son amour de son pays natal, hein, l'Arménie. Et donc jusqu'à après, donc là tout de suite on voit à quel point son engagement a été important en tant que militant communiste, hein, bien sûr. Il avait été repéré déjà au début, hein, de la deuxième guerre mondiale, en 1939. Il était déjà repéré comme tel et inquiété d'ailleurs par la police française. Et puis, donc tout au long de la guerre, il s'est engagé bien sûr au sein de la fameuse FTP-MOI, qui est la section des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre étrangère. Et il a effectivement, le récit, hein, l'indique très très bien à travers les pages, il a participé à tout un tas d'opérations militaires, d'opérations de résistance, hein, voilà, parce que lui, son désir, c'était vraiment il voulait lutter pour la liberté en tant qu'étranger. Et la bande dessinée est enrichie par un très très bon dossier historique, hein, fait par l'historien Denis Péchanski. Et il y a d'ailleurs de nombreuses des photos, des documents de police, le portrait aussi de Misak Manoukian réalisé par Ernest Pignon Ernest, de nombreuses archives historiques en fait qui montrent le rôle important des étrangers, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, le rôle de la résistance étrangère qui a été quand même crucial, mine de rien, hein, C'est vrai que l'affiche rouge, elle montre cette haine envers les étrangers, bien sûr, hein, dans le contexte de l'époque. Mais c'était ça, en fait, à proportion de ce qu'ont pu être tous les résistants étrangers engagés. Eh bien, ils étaient finalement plus nombreux que les résistants français. Et ça, c'est très très bien indiqué dans le dossier historique, justement, hein, avec toutes les photos. Alors, bien sûr, hein, il n'y a pas que les Arméniens, hein, il y a beaucoup d'Espagnols, il y a tous les Italiens. Manoukian était très très attaché aussi à la lutte contre le fascisme, hein, bien sûr. Donc ça, c'était aussi son côté communiste, hein, c'est sûr, mais c'est clairement démontré, hein, il voulait vraiment lutter pour la liberté, contre le fascisme, du fait qu'il avait connu le génocide arménien. Et c'est vraiment ce qu'on voit à travers tout le dossier et toute cette bande dessinée, bien sûr.
Oui, c'est un concept intéressant, parce qu'auparavant, on avait les bandes dessinées, on avait les BD.
Voilà,
et puis à côté, on avait le livre, l'essai, avec des photos. Ouais. Là, c'est un...
Là, c'est vraiment un regroupement, en fait. Voilà, il y a d'un côté la bande dessinée, voilà, il y a tout le récit de sa vie. Voilà, puis bon, aussi, bien sûr, sa rencontre avec Mélinée, hein, sa femme Mélinée, hein, qui lui a quand même voué un soutien sans faille, hein, jusqu'à la fin. D'ailleurs, à la fin du dossier, on voit la copie de la lettre que Misak Manoukian a écrit à Mélinée peu de temps avant son exécution au Mont Valérien. Hein, c'est poignant, cette lettre d'adieu qui lui demande de continuer sa vie, d'avoir un enfant, de se marier. Enfin, il lui demande d'être heureuse parce que pour lui, il considérait que même s'il était mort, elle avait le droit au bonheur, bien sûr, que la vie continuait malgré tout. Et puis aussi, à la fin du dossier historique, il y a cette fameuse photo des fusillés du Mont Valérien dont a fait partie Misak Manoukian. Hein, voilà cette photo en noir et blanc qui montre justement toute l'atrocité dont on fait preuve les Allemands quand même. Hein, il est mort vraiment comme un héros, sûrement. Oui, c'est sûr, on peut considérer ça comme ça.
Oui, oui. Et c'est un livre paru aux éditions.
Ah oui, alors c'est Les Arènes, et puis donc en collaboration avec le ministère des Armées.
Oui, enfin, Les Arènes.
Oui, 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 voilà, Les Arènes, bien sûr. Hein, oui, c'est pas la première fois qu'ils font des collaborations de ce genre-là. Donc, et puis. Bien sûr, donc Didier Denynx a participé, hein, pour tout ce qui est scénario, etc. Enfin,
et puis le dessin, c'est...
Voilà, le dessin, c'est Mako.
C'est Mako, et puis l'historien.
Denis Péchanski.
D'accord, voilà. Très bien.
Donc,
merci.
Misak Manoukian, Une vie héroïque.
Bon, voilà, un livre intéressant, et tant sur le fond du sujet traité que sur le plan de la forme. Il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais vous présenter un dernier livre dans la série, plutôt, Le son des mots. Oui, nous présentons des livres charmeurs, un peu, des poésies, mais là, je vous propose un livre qui s'appelle Fou de Paris, d'Eugène Zavitsikaya, qui est publié dans une maison d'édition que nous mentionnons peu, les éditions de Minuit. Je rappelle qu'elle a été créée pendant la guerre par des résistants dont j'admire toujours le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont eu le courage de se lever contre l'occupant. Alors, les éditions de Minuit, eh bien, la sobriété des couvertures de ces éditions est légendaire. Et là, nous avons un titre « Fou de Paris » d'Eugène Zavitskaya. Moi, je prends. Je suis un peu aussi un fou de Paris. C'est un petit livre qui se loge dans une poche et permet de déambuler dans ce Paris avec un coup de folie ou tout simplement du rêve et des images. L'incipit accroche le lecteur. Je cite. On aurait dit que Paris se lissait les plumes ou les poils, ses plumes d'élégante corneille, ses poils de beau bièvre. Le bièvre est le nom ancien du castor. L'auteur nous promène le long du canal de l'Ourcq, je cite encore, sur le canal qu'approvisionne l'Ourcq, le capitaine me prend à son bord avec mon domestique, nous voguons vers la Seine. Je ne vous lis pas la suite, c'est un poème sur Paris, sur ses habitants, ses lieux-dits, l'esprit vagabonde entre Montmartre, les buts de Chaumont. Monsieur serait-il rive droite? Attendez la suite, il nous conduit vers Pantin. L'esprit est reparti, une tricoteuse, des poissons, le mystère du silure. Ah, vous verrez ce que c'est que le mystère, parce que c'est un poisson, hein, mais le mystère du silure, des yeux dilatés, le vent de l'eau qui souffle des profondeurs. J'aime beaucoup la formule, le vent de l'eau qui souffle des profondeurs. Et ce nom d'Égésippe qui revient, serait-ce Égésippe Moreau, poète né à Paris en 1810 et mort à Paris en 1838. Ah, vous lirez quand je vous dis que ce livre est un poème. Et il y a un fou qui est peut-être un sage. Ce sage croise les émigrés de Seine-Saint-Denis, ceux d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, mais aussi les Grecs, des Polonais, les Syriens. C'est le monde entier qui se croise le long du canal de l'Ourcq. Ceci, et je cite encore l'auteur, ceci est une chanson cueillie au bord des quais. Oui, c'est un très beau moment de poésie. Les lieux se mêlent, comme pour perdre le lecteur, les abattoirs où le sang coule au caniveau, une formule de l'auteur. Cherchez aussi le masque Bruno, vous le trouverez, et rive gauche, le jardin des plantes, le square Vermenouze et la Bièvre de sa source à Paris. L'amour court les rues. Je lui fais confiance. Nous voici au cœur des phénomènes et dans le nœud bien serré du poème. Vous goûterez cette phrase dans son contexte. En marchant dans Paris, il songe au canonnier de la Commune de Paris. Il m'est vraiment sympathique, cet Eugène. Lisez son livre, car je n'ai pas tout dit, évidemment, et promenez-vous dans cette joie de vivre. Nous sommes en mai, enfin, dans l'esprit. Eugène Zavitskaya, Fou de Paris, aux éditions de Minuit en 2023. Eh bien, mes chers amis, voilà quelques ouvrages que nous souhaitions vous présenter. Je vous rappelle le numéro du Monde Libertaire de mars 2024. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Le mercredi 24 avril, nous recevrons Sophie Boiret pour nous parler de son livre consacré à Joséphine Becker. Là aussi, un livre original sur la forme et sur le fond. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré, et nous laissons la place à nos amis de l'émission Femmes Libres. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles, froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je
je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Ouais.
Courir au grand air, droit et décomplexé, j'ai adoré le coup de la carte judiciaire. Prada, c'est judicieux, j'aime vos mini-mystères. Vous avez plein d'amis et même de grands artistes qui vous flattent l'ego. Pour Carlos, vous étiez triste, mais ce que je préfère, c'est vous voir poser dans la presse Lagardère, riche et décomplexé. Mais ce que je préfère, c'est vous voir poser dans la presse Lagardère, riche et décomplexé. Comme vous, j'aime la mer, les mouettes, les petits bateaux, les avions rapides et les petits cadeaux. Je fonds devant un beau stylo dans son écrin. Je ne fume ni ne bois et j'adore les mannequins. Mais ce que je préfère, c'est vous voir si fier, Kadhafi, Bush, Poutine, de vos amis intimes. Mais ce que je préfère, c'est vous voir si fier, Kadhafi, Bush, Poutine, de vos amis intimes. Depuis que t'es élu, tu t'es fait despote.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent. Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levant nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 15e émission pour cette année 2024, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment. Et aujourd'hui, on va parler de pouvoir. Qui nous opprime, qui nous exploite, qui nous discrimine. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Sylvie qui est à la régie. Bonsoir Sylvie.
Et Hélène, l'animation. Bonsoir voilà. Hélène.
L'émission, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h30. On peut nous suivre sur notre blog. Émission trait d'union femmeslibres.blogspot.com et du coup on peut évidemment réécouter les émissions, avoir le programme et autres informations, et on peut nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex, ça c'est notre rubrique habituelle, et deux dossiers, violence obstétricale et gynécologique. Donc, un livre sous la direction de Claudine Schalk, Raymond Gagnon et Sonia Biche. Mais nous aurons d'autres invités que ces noms-là. Un livre qui est sorti chez l'Harmattan 2023. Et deuxième dossier, les sorores avec Séverine Ettinger, qui nous parlera de l'exposition sur le thème Backlash au Café Fusain, et ça c'est 50 avenue Parmentier dans le 11e. Et nous terminerons, on espère qu'on aura un petit peu de temps pour les informations, les communiquer, les rendez-vous. Nous démarrons par notre rubrique Féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au
Pakistan. Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix. Un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
34, c'est le chiffre censé dans les médias sur Internet des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2024. Et c'est un chiffre à minima. À partir du 1er janvier 2016, des militantes féministes anonymes du collectif Féminicide par compagnon ou ex-